Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, ce soir c'est carte blanche à Vincent Pagliarin. Alors le nom de Vincent Pagliarin n'est pas inconnu des mélomanes nancéens, on verra tout cela tout à l'heure. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Dominique.
Alors avant d'évoquer votre parcours musical, on va écouter un peu de musique et plus particulièrement le début de la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, qui est une musique que vous avez beaucoup entendue, on dira pourquoi tout à l'heure. Voilà, c'était le grand solo de corps du début de la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Alors pourquoi on a écouté ça, Vincent ?
Oh bah c'est un grand moment d'émotion pour moi. Mon papa était le cor solo de l'orchestre de Nancy et professeur au conservatoire également.
Oui.
Et c'est un morceau qu'il travaillait très très souvent.
Bah oui, parce que c'est quand même un des plus difficiles
c'est
de répertoire.
C'est un des plus difficiles.
Hein. Et donc, il faut le travailler tous les jours pour être prêt à le jouer quand il faut.
Tout à fait. Et puis, c'était... Mon papa avait commencé une carrière de chanteur. Il avait une voix magnifique qu'il a arrêtée. Je suis tombé sur un article d'un journaliste. Il avait joué dans les Noces de Figaro au théâtre de Nancy. Mm-hmm. Il avait 14 ou 15 ans, je crois. Et le journaliste avait été très, très dithyrambique, lui promettant une très belle carrière. Mais il a arrêté. Ah. Il n'a jamais su m'expliquer, enfin il n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi. Il n'y a que quelques mois avant son décès qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas être dépendant de sa voix. Et il a commencé le cor très tardivement, il a commencé à 15-16 ans.
Mm-hmm.
Et il jouait du cor comme il chantait, si j'ose dire. Et il avait cette notion, cet amour de la musique déjà d'une part, et cette nécessité du chant. Et à chaque fois qu'il jouait, à la maison notamment, c'était sa voix qui résonnait.
Bien, parlez-nous un peu de votre parcours musical. Il y a du boulot là, hein ?
Ben, je peux le résumer.
Oh ben, on a le temps un petit peu. Hein.
Ouais, ben j'ai fait mes études donc au conservatoire de Nancy, dans la classe de cette grande enseignante que fut Josette Durivo-Léris, très grande violoniste également, qui était le violon solo de l'orchestre de Nancy, qui m'a tout appris et qui avait aussi une exigence. Qui aurait pu sembler être de la sévérité, mais qui en réalité était une exigence qui nous permettait, nous autres, ces élèves, d'aller au plus efficace, si j'ose dire.
Mmh.
Et il n'y a qu'un petit détail, c'est quand je lui ai manifesté mon désir, je suis allé écouter Jean-Luc Ponty à Strasbourg, j'avais 13 ans, il sortait à l'époque Cosmic Messenger, et là j'ai eu la révélation de ma vie aussi, puisque j'écoutais une musique... joué par un violoniste exceptionnel, puisque pour moi, Ponty est le plus grand violoniste de jazz. Et j'ai décidé à ce moment-là d'aller dans cette direction-là aussi. Je m'en suis... j'en ai parlé à Mme Harris, qui n'était pas du tout d'accord. Bien. Alors, il y a eu quelques petits moments, bien sûr, de tension.
Ouais.
Je... Voilà, et...
Votre papa a fait le tampon ?
Bon,
non, pas vraiment,
non.
Vous l'avez laissé en face à face avec
oui,
Madame.
Oui. Il se disait que je me trompais et que j'avais bien d'autres choses à faire.
Bon, alors après Nancy.
Et puis après Nancy, ben, je me suis présenté au Conservatoire de Paris. Et contrairement à ce que...
En classe de violon.
Tout ce qui était prêt, tout ce qu'on pouvait me dire, ben, j'ai été pris la première année où je me suis présenté. Et je me présentais chez Michel Auclair, dans la classe de Michel Auclair. Et... quand j'ai appris que j'avais été pris au Conservatoire de Paris, Michel Auclert, dans le, je me rappellerai toujours, c'était rue de Madrid, dans le hall, est venu me voir en me disant « Je suis désolé Vincent, je ne peux pas te prendre dans ma classe parce que tous mes élèves ont été pris et je n'ai plus de place. » Bien, elle me dit « Je vais te faire une proposition qui pourra ne... Dis-moi si ça te plaît ou pas. » Bon. Christian Ferras a des places dans sa classe. Et Christian Ferras, c'est mon idole. Ah, violoniste, oui. Parce que mon père en plus m'avait acheté des vinyles, des concertos de Beethoven, Sibelius, Brahms, avec Karajan et l'Orchestre de Berlin. Et il était venu faire des concerts à Nancy d'ailleurs, un concert à Nancy. Bref, et là, je me dis c'est un rêve, je vais rentrer à la classe de mon idole. Quoi. Et alors la petite anecdote, c'est que le premier cours que j'ai pris avec Christian Ferras, j'ai joué le grave de la première sonate, mais pas bien. J'avais le trac, j'étais... Il prend mon violon et il le joue. Et là, je me dis, c'est un rêve. C'était à telle époque, je me pinçais pour me dire, mais réveille-toi, mon vieux, parce que tu ne peux pas vivre un instant comme ça. Il jouait magnifiquement bien, évidemment. Il a terminé, il me rend le violon et me dit, à toi. Et je le regarde avec admiration et je lui dis, non. Ouais. Là, il m'a regardé d'un air un peu... comment dire, sceptique. Il m'a dit quoi, ça t'a pas plu? Justement, c'est un rêve pour moi, c'est tellement imaginaire que je ne veux pas détruire cet instant, je vais travailler.
Voilà, ah bah ça c'est une bonne
décision. Et ça a été une expérience. Voilà.
Bien, alors, pendant votre parcours musical à Nancy, vous avez fréquenté un petit peu tous les musiciens oui. de la région,
oui.
notamment notre ami Pierre Cortellesi.
Eh oui. Ah oui, c'était... c'était
Pour ceux qui ne savent pas, Pierre Cortellesi était l'organiste de la cathédrale de Nancy.
Voilà. Et dès l'âge de 14 ans, le trio récital de Nancy, Jacques Mull, Dino Tomba et Pierre Cortellesi, jouaient en Allemagne. Et nous sommes allés avec Nathalie Mull aussi, qui était la fille de Jacques. Nous sommes allés faire nos premiers concerts à Wörstadt, et oui. dans 15 jours, qui s'appelait la Bachwoche, c'était la musique de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai découvert... c'est une époque où les musiciens, les enseignants avaient aussi une beauté d'âme exceptionnelle. Quoi. Mmh, mmh. Et,
ah, ces trois-là, surtout. Oui.
Et ces trois-là, et Pierre aussi, qui était un... En plus, j'étais un peu... Il savait que je voulais faire du jazz, donc de temps en temps, on a fait des soirées où je jouais, pas bien bien sûr, mais je jouais avec lui, parce que lui, il a joué du piano dans
oui,
les...
Oui, oui, oui. Hein oui. On en parlera l'an prochain
ah, oui.
avec son épouse.
C'est un homme exceptionnel, j'ai adoré.
Eh bien écoutez, on va l'écouter dans un arrangement qu'il a fait de la vocalise de Rachmaninov au grand orgue de la cathédrale de Nancy. C'était la vocaliste de Rachmaninov, enfin une adaptation par Pierre Cortellesi aux grandes orgues de la cathédrale de Nancy. Alors Vincent Pagliarin, on va changer tout à fait d'horizon avec Payas. Parlez-nous de Payas, vous avez voulu qu'on en entende un extrait, ça m'a été fait tout à l'heure.
Oui, bah pour deux raisons, parce que Pagliacci... Donc, moi c'est quand même Pagliarin, donc d'une part, et puis d'autre part, c'est un opéra que j'ai découvert très 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 jeune finalement, et l'histoire étant celle d'une histoire d'amour qui finit mal,
comme souvent à l'opéra. Hein.
Voilà, et surtout c'est l'un des premiers opéras qui décrit la distance qu'il peut y avoir ou la confusion qu'il peut y avoir entre la réalité et l'imaginaire et la réalité, puisque Calvino, donc Payas, assassine sa femme et l'amant de sa femme à la fin, sous le regard amusé du public, oui, qui pense que c'est du théâtre, mais en réalité non, c'est la réalité. Et l'extrait, je crois, que j'ai choisi, décrit aussi ce fait que l'artiste est là aussi pour décrire certaines formes de réalité, quand même, et qu'il faut toujours faire attention à ne pas croire, à bien la distinguer.
Alors on écoute le prologue et l'air de Tonio de Payas de Ruggiero Leoncavallo.
Si può, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono come pria, le lacrime che noi versiamo son false degli spasimi e dei nostri martiri, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece vincervi uno squarcio di vita. Egli è per massima sol che l'artista è un uomo, e per me gli uomini scrivere e dal vero ispirata sì. Thank you.
C'était le prologue et l'air de Tonio, extrait du Paillasse de Léon Cavallo.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors mon invité, Vincent Pagliarin, aime les adagios, et surtout celui de la quatrième de Beethoven. Racontez-nous votre amour pour la musique de Beethoven.
Eh bien, Beethoven, c'est le compositeur qui m'a, voilà, qui rayonnait en moi, et comme je le dis à chacun, à 7 ans, je connaissais quasiment les 9 symphonies de Beethoven par cœur.
Et vous amusiez à les diriger ?
Ah, non, je les écoutais, bien sûr. Et après les quatuors, bien sûr. Et ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je pensais connaître à fond les symphonies, sauf que, non, c'est quand je les ai jouées en orchestre que j'ai vraiment mieux cerné. Et puis, partant du principe que la musique est une philosophie aussi, eh bien, la philosophie de Beethoven, je l'ai en moi, si j'ose dire, par le biais de sa musique et non pas des textes ou des écrits, mais sa musique, quand j'écoute, c'est les quatuors aussi, d'ailleurs, et puis toute l'œuvre de Beethoven, de toute façon. Et s'étendant de la quatrième est, à mon sens, annonciateur de toute la musique qui va suivre jusqu'au XXe siècle. Elle annonce Mahler, elle annonce Schoenberg, elle annonce... C'est absolument... l'espace et le temps sont totalement distendus, mais en même temps élargis, si j'ose dire.
Oui. Alors, cet adagio implique donc un besoin de temps pour installer et dérouler l'argument musical.
Ouais.
Alors, on prend le temps d'écouter en entier et puis on continue à parler après. Alors, on va sauter non pas du coq à l'âne, mais de Beethoven à Tchaïkovski, pour parler à présent de d'Eugène Onéguine, qui est un opéra qui vous tient à cœur également.
Oui.
Bah, l'opéra, globalement, vous tient à cœur, j'ai l'impression.
Oui, oui, oui. J'en écoutais, ne serait-ce que quand mon père faisait au théâtre. Hein, je suis allé assister à beaucoup d'opéras ici. Et puis Eugène Onéguine également, que mon père adorait. J'aime beaucoup parce que c'est une histoire assez sordide, finalement. Quoi. C'est encore une histoire d'amour très, très, très ambiguë et qui termine sur quelque chose de dramatique, en quelque sorte. Et l'air en question que j'ai choisi, c'est... L'amour est pour tous les âges, en quelque sorte. Ouais. Et j'aime beaucoup le texte, en quelque sorte, qui décrit la vie dans tous les tourments, dans toute la toxicité de certains comportements, l'inhumanité de certains comportements. Mais l'amour, la notion d'amour, nous ramène toujours à ce qu'il y a de plus humain en nous. Et ce qui devrait être transmis. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lors du décès de mon père, les hommages qui ont été rendus par les élèves qu'il a eus, et il en a quand même envoyé 7 ou 8 au Conservatoire de Paris et de Lyon, et puis de solfège aussi, j'ai débuté le solfège avec papa, et tous les témoignages correspondent, c'est pas « il m'a appris du corps » ou « il m'a appris ceci ou cela ». C'était extraordinaire parce que l'hommage il était rendu à la transmission qu'il a réussi à établir, à faire de l'amour qu'il avait de la musique. Mot revenait tout le temps.
Et vous pensez que les nouvelles générations d'enseignants sont encore dans cette dynamique-là ?
Je trouve qu'on commence à s'en éloigner et ça m'inquiète.
Ça sèche un petit peu tout ça.
Tout à fait.
Ça devient un peu trop technique peut-être ?
C'est pas cela. Oui, sans aucun doute, mais je relis Théodore Monod, que je lisais quand j'avais 14 ans, que j'ai rencontré d'ailleurs, avec lequel j'ai discuté. Et on lui demandait à la fin des années 70, soit en 79, dans un livre qui s'appelle Terre et Ciel, c'est des entretiens avec un journaliste, quel est à votre sens l'avenir de l'humanité ? Et il répond en décrivant le monde tel qu'il est à l'heure actuelle, dans les années 70. Hein. Oui. C'est-à-dire, il constate un recul total de la spiritualité, qui n'était pas religieuse dans cette explication-là, qui était cosmogonique en quelque sorte, de cette vision qui peut naître en soi de l'univers en quelque sorte, donc pour nous resituer un peu. Et il dit ça amène à l'individualisme, à l'égoïsme, il va y avoir une succession de conflits, mais pas mondiaux, mais petits conflits, et surtout dans les établissements d'enseignement, un retrait des qualités humaines nécessaires, le partage, la bienveillance et l'amour même de ce que l'on est censé enseigner.
Alors il faudrait compenser pour les élèves par le fait d'aller écouter de la musique en direct,
mon
en
Dieu.
Live.
Tout à
Mais
fait.
C'est pas le cas non plus.
C'est-à-dire que le problème aussi est à ce niveau-là, bien sûr.
Oui. On écoute Eugène Onéguine, l'air du comte Grémin. Oh, we
страшимых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и смен, среди голодных приговоров, жестоко с верой суеты, среди досадной пустоты, расчетов думи разговор.
C'était l'air du comte Grémine, extrait d'Eugène Onegin de Piotr Ilitch Tchaïkovski, avec dans le rôle titre Nikolaï Guirov.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Voilà, alors Vincent Pagliara, on a déjà écouté pas mal de choses, mais on va peut-être passer vers votre casquette de compositeur, d'arrangeur.
Oui.
On laissera le jazz pour mon ami Alain Aubrez, avec lequel vous parlerez un peu plus tard. Comment ça vous est venu l'idée d'écrire de la musique ?
Eh bien, j'ai fait mes classes d'harmonie, d'une part, et c'est le jazz qui m'a conduit à... Enfin, c'est un des aspects du jazz, bien sûr, mais surtout, un ami qui était comédien, qui voulait écrire la musique d'un spectacle, m'a demandé si je pouvais. J'ai j'ai accepté de le faire et c'est ainsi que je me suis aperçu que en intériorisant et en allant chercher en moi ce que je pouvais entendre et ce que je pouvais avoir, les sons, eh bien, je pouvais réunir la technique que j'avais apprise au niveau des classes d'harmonie et ainsi découvrir le monde qui, à mon sens, est en chacun d'entre nous, qui est celui de la création. Évidemment, en travaillant énormément et en gardant cette notion que il y a une technique, il y a une inspiration, mais il y a aussi une technique de travail et d'écriture, évidemment. J'en profite d'ailleurs pour dire que je regrette, depuis très très longtemps d'ailleurs, même quand j'étais étudiant ici à Nancy, après au Conservatoire de Paris et dans ceux où j'ai enseigné, je regrette que la notion de création ne soit pas apprise plus tôt. Ouais. Pourquoi, paraît-il ? Parce qu'il faut une technique. Ben non, un enfant, par exemple, n'a pas besoin d'une technique particulière pour laisser libre cours à son imagination. On n'empêche pas un enfant de dessiner, par exemple, ou d'écrire un petit texte ou une poésie. C'est ce que c'est, mais je trouve que c'est dommage parce que je pars du principe que la création est un des moyens les plus ultimes de parvenir à une paix, à une... parce que quand on crée, on porte une œuvre et qu'on partage. Et c'est aussi la meilleure manière de respecter le travail des autres et d'avoir une curiosité qui abolit les frontières et qui abolit toute velléité, égoïsme, justement.
Oui, mais pour créer, il faut quand même un petit peu de technique. Après, oui, au moins travailler un petit peu les choses pour mettre en forme, pour arriver à un discours cohérent qui tienne sur la distance.
Tout à fait.
Et pour revenir à vous, je recevais, ou j'ai reçu il n'y a pas longtemps, Bernard Devienne, qui est un compositeur, que vous connaissez peut-être.
Oui, oui.
Et je lui posais la question, est-ce que c'est votre seconde nature d'être compositeur ? Il a ri, puis il a dit non, c'est ma première nature. c'est la première ou la seconde ?
Oh, je pense que ça fait partie d'un tout. Et c'est la première, à mon sens, mais je l'ai découvert après bien des... Comment dire, bien des négations de ce que doit être l'étude d'un musicien dans un conservatoire, finalement.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on écrit des notes, mon Dieu, c'est pas... Mais alors, il faut aller chercher en soi la possibilité de s'exprimer, tout simplement.
Oui, oui. Alors, je reviens un peu en arrière. On a parlé de vos études au Conservatoire de Paris, mais on n'a rien dit de plus.
Ah.
Vous avez travaillé un peu avec des orchestres, fréquenté des grands personnages, de près, de loin, des anecdotes.
Oui, j'ai eu l'honneur de... j'ai fait des cachetons à l'Orchestre de l'Opéra, à l'Orchestre de Paris.
Des cachetons, c'est remplacé.
Oui, c'est remplacé, c'est pardon. j'ai pu jouer sous la direction de Pierre Boulez, qui est un merveilleux chef d'orchestre.
Ça ne devait pas rigoler avec lui, hein ?
Non, mais c'était...
Il entendait tout.
C'était passionnant.
Ouais.
Il avait un regard et surtout une écoute. Et c'est drôle parce que Boulez, pour moi, fait partie de ces gens qui n'ont pas besoin des mots. Il suffit qu'ils regardent.
Ouais, c'est ça.
Alors, de telle ou telle manière, on sait si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Ouais.
Si l'œil frise ou ne frise pas.
Exactement. Et puis voilà, après, l'orchestre n'a jamais été pour moi une passion dévorante. Par le biais du Conservatoire de Paris, Eugène Onéguine d'ailleurs est un des opéras que j'étais encore au Conservatoire et on l'a fait à la Comédie, l'opéra comique, pardon, et c'était des élèves du Conservatoire de Moscou. Ceci dit, faut reconnaître que pour les parties de violon, c'est pas facile. J'en ai pas foutu beaucoup. Quoi. Puis j'étais tellement passionné par ce qui se passait au plateau.
Sur le plateau, oui, c'est sûr. Vous dites que c'est pas votre grande tasse de thé, l'orchestre. L'enseignement, peut-être ?
Oui, l'enseignement.
Oui.
L'enseignement, bien sûr, parce que l'enseignement est une manière de transmettre. J'ai écrit un texte là-dessus. Pour moi, les valeurs humaines qui sont nécessaires à notre humanité, en quelque sorte, les valeurs humaines se transmettent.
Oui.
Et l'art et la musique aussi, en particulier, sont des domaines dans lesquels on peut transmettre des valeurs humaines. Et ça, souvent, Et ça, c'est une petite critique que je peux faire. Il y a bien, il y a quelques professeurs qui ignorent cette notion et qui transmettent plutôt une forme d'égoïsme, une forme de, une vanité. Mmh. Et bon, mais ça, ce sont des cas particuliers. En tout cas, pour moi, c'est une manière de véhiculer des valeurs humaines qui sont quoi ? Bah, le partage, la bienveillance, la tolérance.
Et puis, l'effort aussi,
et l'effort et le travail. Ah oui, eh ben oui. Et une notion du travail aussi.
Ah oui, parce que s'il manque ça, exactement. On n'a plus rien.
Mais nous sommes quand même dans un courant de la société qui fait dire à certains parents d'élèves, quand on demande aux parents en question que leur gamin travaille, puisqu'ils nous posent la question de savoir pourquoi ils ne progressent pas, mm-hmm. est-ce qu'ils travaillent ? Oui, une fois par semaine. Je dis, ben non, il faut qu'ils travaillent tous les jours. Mm-hmm. Ah, mais on n'est pas là pour... on n'est pas là pour... C'est pas de la contrainte. Et j'ai même une fois... Alors ça, ça a été... J'ai été traité de tortionnaire et de fasciste. En demandant simplement qu'ils travaillent son instrument pour progresser. Eh bien... C'est le signe d'un temps, à mon sens.
Ouais. Vous enseignez où actuellement ?
Alors à Auxerre, d'accord. Au conservatoire d'Auxerre. Et j'ai enseigné pendant 20 ans le jazz au conservatoire d'Aubervilliers-la-Courneuve.
D'accord. Alors vous avez un quatuor, le quatuor Mélété.
Oui.
Ça veut dire quoi Mélété ?
Alors Mélété, c'est la muse dans l'Antiquité, la Grèce antique, la mythologie. Et c'est la muse de la raison et du travail.
Ah, comme par hasard.
Eh oui. Et quelque part aussi, de la raison et du travail, et d'une sorte de d'ardeur au travail, et sachant que le travail nous conduit à découvrir en soi des choses que l'on ignore totalement si on ne travaille pas.
Oui, non, mais c'est clair.
Et j'ai même envie de dire que après un accident qui m'a beaucoup inquiété sur ce que j'aurais pu, je suis tombé dans des escaliers, j'ai fait un traumatisme crânien. Et c'est cette notion de travail, c'est l'art, c'est la composition d'ailleurs, et c'est la création, le violon aussi, quand je suis revenu de l'hôpital au bout de 4 mois. Et mine de rien, le fait d'avoir été apeuré à ce point-là, de quitter cette vie, m'a fait découvrir par le travail et par une volonté tenace, m'a fait découvrir en moi des choses que j'ignorais totalement.
Et qui repassent quand vous créez.
Et bien, j'ai le bonheur de composer en ce moment pour une harmonie, donc 70 musiciens et 4 corps d'harmonie solo. Mmh. C'est extraordinaire parce que j'ai déjà composé 2 pièces d'à peu près 5 minutes, mais l'inspiration est telle que sans aucune hésitation. C'est comme si cette inspiration m'était dictée et je suis en rapport avec l'âme de mon père, si j'ose dire.
D'accord. Vous pouvez nous parler des vitraux de l'église d'Alarmont ?
Oui.
Alarmont, c'est dans les Vosges. Hein.
Alarmont, c'est dans les Vosges et j'y ai une maison depuis une trentaine d'années maintenant, dans laquelle je viens pendant les vacances. Et connaissant le maire, je lui demande les clés de l'église pour aller y jouer. Et le vitrail de Saint-Nicolas, je crois, ou Saint-Léonard, pardon, était totalement détruit, enfin brisé. Je vais le voir et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, oui, on n'a pas les moyens de... Je lui dis, écoutez, j'organise un concert avec un pianiste qui s'était installé dans la région et les frais de ce concert iront à la réfection de ce vitrail. Tout le monde me disait, tu fais une bêtise, ça n'intéresse personne, surtout ici, il n'y aura personne. L'église était pleine.
Ah oui.
Ils ont fait 2000 euros de recettes. Mmh. Qui ont permis la rénovation de ce vitrail et surtout qui a intéressé une association qui s'occupe des lieux culturels comme cela pour restaurer. Et du coup, ça a donné lieu ça a donné naissance à cette rénovation de cette église.
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières.
Exactement, hein, tout à fait.
Ben écoutez, Vincent, merci de votre participation.
C'est moi, merci beaucoup.
Tempo Classique, on a été ravis de vous accueillir. On va terminer avec une de vos compositions qui s'appelle Refuge. Thank you. Voilà, c'était Refuge, une pièce écrite par mon invité de ce soir, Vincent Pagliarin. Alors, Joris, merci pour la technique. Il y a eu un peu de travail aujourd'hui, je suis désolé. Merci encore, Vincent, pour votre présence.
Merci,
et puis, on vous retrouve mardi prochain. En attendant, restez sur RCN. Thank you.